de travail scientifique dont on prenait des essais, pourquoi avoir choisi un roman, ou en tout cas la fiction, pour nous parler de ce qui vous tient à cœur aujourd'hui?
Merci Émile. Bonjour à toutes et tous. Et puis, si vous attendiez Laurent Alexandre, j'espère qu'il va arriver et ne pas vous décevoir. En tout cas, très heureux d'être avec vous ce matin. Effectivement, il y a un intérêt, je pense, vraiment à aborder ce sujet par la fiction. Alors, à vrai dire, merci d'avoir rappelé mon parcours. Il a été très très opérationnel dans le secteur de la santé. Et comme vous l'aviez rappelé, en fait, moi j'ai commencé par la partie académique, par les technologies de l'information et de la communication il y a 17 ans. Et cet aspect académique-là a fait naître un intérêt sur les questions d'intelligence artificielle et sur les questions de numérique en santé, qui s'est confronté après à l'opérationnel et qui s'est confronté, ce qui est la matière du livre Sarah, à une expérience forte que j'avais connue comme directeur général du CHU de La Réunion. Alors, je ne sais pas si vous connaissez La Réunion, c'est cette petite île française à côté de Patrimoine Madagascar, très très jolie, où on avait été confronté fin 2014 à une suspicion de cas d'Ebola, très très lourde à gérer pendant 5 jours, dans une ambiance en fait assez crispée, assez tendue médiatiquement. Le sujet avait été assez relayé au niveau national français, parce que c'était à l'époque une question sur est-ce qu'on a pas là le premier cas autochtone d'Ebola, ce que vous souvenez pendant la grande crise d'Ebola en 2014. Et pour vous dire ça sur un mode un peu politiquement correct, avec les équipes du CHU, on n'avait pas eu le sentiment que les positions du ministère avaient été marquées du sceau d'une rationalité permanente pendant la gestion de la crise. Et du coup a émergé assez vite l'idée après. Est-ce que ça aurait été mieux, c'est la question que je suis posée, si mon interlocutrice n'avait pas été la ministre de la Santé, mais une intelligence artificielle? Vous voyez, l'idée est venue comme ça. Et au départ, ce n'était pas forcément pour en écrire un polar, mais plutôt un schéma, vous voyez, de cas de management, de stress test, parce que c'était intéressant de voir comment les comportements des uns et des autres s'étaient ajustés en période de pression maximale et de gestion de crise maximale. Et Sarah, elle est comme ça. Et après, j'ai fait relire une version zéro, on m'a dit, mais non, il faut que tu l'écrives, c'est un polar. Et ça m'a permis, effectivement, de toucher des messages sur l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut apporter, et la manière dont on peut maîtriser ces enjeux éthiques. Alors, ça fait partie, en fait, des questions que pose le livre. En fait, il se présente comme un rapport brut sur la gestion d'une crise d'Ebola qui était gérée par intelligence artificielle en 2025 à Paris. Une des pistes, un des questionnements dans lesquels je voulais plonger le lecteur, c'est finalement qui parle, quel est le réel, qu'est-ce qui est faux. Dans un monde, c'est ça le cœur de la réflexion qui a été finalement au centre de mon parcours académique. On est dans un monde, et je pense que vous en faites toutes et tous l'expérience dans votre vie de tous les jours, dans lequel le numérique brouille notre perception du réel. On a une surabondance de messages, une surabondance de réseaux sociaux, une surabondance de communication, qui fait que passé un certain seuil, on est dans le monde des fake news, on est dans le monde où on ne sait plus réellement se repérer. Et je pense que l'intelligence artificielle participe de ce mouvement-là. Elle amène des gains majeurs pour le système de santé, mais elle amène aussi des risques de perturbation. On peut même mentir. Et en fait, cette gestion de crise de 2025 que j'essaie de décrire, elle montre aussi des acteurs, des médecins, des politiques, et aussi des gens comme vous et moi qui sont à Paris pendant la crise, immergés dans un environnement où on leur envoie des messages, mais il y a une version officielle, une version qui l'est moins, et puis derrière l'idée de gérer un risque épidémique. Alors, vous comprenez le point central, c'est qu'en fait, dans l'IA appliquée à la santé, le message que je porte, là cette fois d'un point de vue plus académique et professionnel, c'est qu'il ne faut pas se fermer à la technologie. Elle va faire progresser le système de santé en France, en Belgique. C'est un sujet que j'ai l'occasion de suivre avec l'équipe du patient numérique, qui a un groupe de réflexion en Belgique francophone qui est très avancé sur ces questions. Mais on voit que l'IA, en partir du moment où Fulbright pose une série de questions éthiques assez lourdes, et pas forcément celles qu'on pose aujourd'hui dans le débat public. Et notamment, c'est ce que j'essaie de décrire dans le livre, le point de tension entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif.
On va y revenir tout à l'heure, mais on va dépasser évidemment le roman, et puis on jouera aussi un peu à Laurent un exemple pour faire le pont entre les ouvrages. Mais la question que j'ai envie de vous poser, que je me suis posée plusieurs fois en découvrant le texte, c'est vous êtes-vous impliqué dans la politique en France, non pas en tant qu'élu, mais en tant que conseiller et ainsi de suite. Donc vous êtes au fait d'un certain nombre de choses, vous en dévoilez quand même quelques-unes dans ce roman-là. Où est la limite, c'est-à-dire à partir de quand d'abord vous vous faites taper sur les doigts, et puis aussi quelle est l'autocensure que vous vous imposez?
À vrai dire, à peu près aucune. Et c'était ça l'intérêt de la fiction. Alors vous verrez, effectivement, je décris la gestion de crise sous le capot de la machine du gouvernement. Et en réalité, cette société du pouvoir, comme notre société humaine dans son ensemble, elle a ses grandeurs, elle défend des valeurs supérieures et elle cherche à apporter l'intérêt général, mais c'est aussi une société d'intérêt particulier. D'intérêts personnels, de petits égoïsmes. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de vécu là-dedans. Pour autant, dans Sarah, je peux pas vous dire que dans la galerie de personnages que j'essaie de décrire, je ne peux pas vous dire qu'il y en ait un tel ou un tel qui soit directement connecté à une personne réelle.
C'est plutôt la synthèse de plusieurs personnes, si j'ai compris.
Exactement. Alors après, vous voyez, c'est. Le positionnement que j'essaie d'adopter, c'est pas. Je suis issu de notre belle technocratie française et je ne la redoute pas. Mais le regard que je porte et la critique sous-jacente devant cette machine technocratique qu'il y a dans le livre, c'est pas une critique, c'est pas la critique de quelqu'un qui dirait je me dédouane de ce système, je m'en lave les mains, j'y ai appartenu, j'y appartiens encore. Mais je mesure bien que ce que je voulais faire comprendre, c'est que finalement, quand on aborde hier, on le voit avec les yeux de la science-fiction, avec Terminator, avec le regard qu'on a à travers Matrix. Mais parfois, on peut, nous, comme intervenants humains, être plus machine que la machine elle-même. Il y a des situations ou des contextes dans lesquels on peut nous-mêmes devenir des automates, prendre des décisions machinales. Vous voyez, l'expression est entrée dans le langage courant. Et le problème, c'est moins la technologie que la manière dont on l'utilise, la manière dont on la régule ou on la régule pas.
Alors vous prenez...
Et là, on tombe dans l'exercice d'anticipation. Et en fait, je vous ai expliqué un peu l'origine du livre, qui était un cas tout à fait réel que j'ai essayé d'extrapoler. Et je pense que le récit, alors qu'il s'est un ouvrage de fiction, il s'appuie sur une analyse assez factuel de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, ou plutôt telle qu'elle existait au moment où j'ai écrit réellement le livre, c'est-à-dire à l'été 2017. Et en fait, il y a des choses que j'ai écrit en 2017 que je pensais être de la science-fiction pure et qui en fait sont déjà dans le domaine du réel en janvier 2019. Vous voyez, ce qui me frappe et qui est complètement vertigineux, c'est la manière avec laquelle la technologie progresse. Elle ne le fait pas de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se représenter l'IA telle qu'elle avance comme un mouvement de fond qui avancerait à un rythme homogène dans tous les champs de la vie économique et sociale, mais elle avance sous forme de percée brutale, parfois radicale. Et d'ailleurs même l'objet du livre, qui est de décrire une intelligence artificielle qui gère un risque épidémique. C'est ça, le système automatisé de réponse rapide aux alertes. Quand j'ai écrit le livre en mi-2017, on était dans la science-fiction pure. Et puis, le réel a rattrapé Sarah. Aujourd'hui, vous avez des intelligences artificielles qui sont capables de prédire des épidémies, ce qu'on appelle notamment des arboviroses. Vous savez, des pathologies qui sont transmises par le moustique. Il y a des expériences de ce type-là qui ont été tentées, notamment au Brésil, et en Malaisie dans la prédétermination de ce qu'on appelle le chikungunya ou le Zika. Vous savez, cette épidémie qui a beaucoup frappé l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, vous avez des intelligences, des IA, capables d'analyser massivement les données des systèmes de santé, les signes, les tableaux cliniques que présentent les patients en urgence, est-ce qu'ils présentent les douleurs articulaires caractéristiques du Zika ou du chikungunya, et qui sont capables d'analyser, ça paraît vertigineux mais c'est réel, les mouvements, les déplacements moustiques. Et donc en fait, la corrélation des deux permet de pré-identifier des foyers émergents de dengue, de chikungunya, de Zika, pour en déduire des préconisations de mesures de santé publique. Donc l'IA est déjà capable de faire ça. Et puis, ce que je pensais là être une science-fiction très très lointaine, c'est que je décris dans Sarah une IA qui serait capable non seulement de faire de la gestion de risque épidémique, mais en plus elle-même de produire un vaccin pour répondre au virus en temps réel. On n'en est pas encore tout à fait là, mais hasard ou coïncidence, vous avez vu que malheureusement, il y a une résurgence lourde d'épidémie d'Ebola au Congo depuis l'année dernière. Et il y a 4 mois, l'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de tester un vaccin en population réelle pendant la gestion de crise de l'épidémie d'Ebola. Vous voyez, le réel avance de la même manière que je décris dans le livre, un univers assez extrapolé où on s'est immergé constamment dans des réseaux sociaux encore plus accaparants que n'est Twitter ou Facebook aujourd'hui. Et c'est un réseau social qui s'appelle Pangolin. Et en fait, les nouvelles versions de réseaux sociaux qui arrivent sur le marché sont peut-être même au-delà de ce que j'ai.
Alors, Alexandre Laurent Alexandre, vous avez vous-même déclaré, donc c'est ce que je voulais lui demander, que dans peu de temps, l'ordinateur sera plus sûr que celui d'un urologue, par exemple, puisqu'il est urologue. Est-ce que vous partagez cette... Il va plus loin, d'ailleurs, mais lui, il dit, à un moment donné, comment va-t-on encore aller dans des hôpitaux qui ne sont pas gérés par l'intelligence artificielle, alors qu'on sait que les chances statistiques de guérison sont de 70%, alors qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à 90 ou 95.
Alors, je pense qu'il a raison et qu'il faut aussi relativiser le constat. Comme je vous disais, l'IA n'avance pas de manière linéaire. Elle est capable d'aller très très vite sur certains sujets, comme la gestion de risques épidémiques, et beaucoup moins vite sur d'autres. Alors, quel est le tableau aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le champ de la santé ? La seule technique qui est aujourd'hui opérationnelle, au point d'être utilisée dans les prises en charge les plus courantes, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'image par apprentissage machine. C'est-à-dire, vous présentez un cliché de scanner, un cliché d'IRM, à un algorithme d'intelligence artificielle qui va apprendre à reconnaître si sur cette image-là, il y a une tumeur ou pas de tumeur, il y a une pathologie ou pas de pathologie. Et là, on n'est plus du tout dans la science-fiction, puisque l'Agence de sécurité sanitaire américaine, la FDA, a autorisé pour la première fois en avril 2018 un algorithme de reconnaissance d'image sur les rétinopathies diabétiques. C'est une maladie qui touche les patients diabétiques, qui est à spectre très large parce qu'elle concerne 50% des patients souffrant de diabète de type 2. Et elle peut être très grave parce qu'elle peut amener jusqu'à la cécité. Et aujourd'hui, l'algorithme IDXDR, en l'occurrence celui qui a été labellisé par la FDA, est meilleur qu'un ophtalmo humain. Alors, pour être plus précis, nous dit la FDA, il produit des résultats équivalents en termes de performance diagnostique le matin, de 20% meilleur le midi, au bout de 6 heures de travail, parce que l'ophtalmo se fatigue, et de 50% meilleur au bout de 12 heures. Vous faites le calcul et l'algorithme va dans son diagnostic 50 fois plus vite que le diagnostiqueur humain. Vous voyez, on est sur des écarts de performance massifs, mais sur un segment déterminé qui est le diagnostic à partir d'images. Et le constat vaut aussi, comme vous l'imaginez bien, en radiologie, en dermatologie, la reconnaissance de mélanome, et en mammographie. Vous avez une start-up française qui s'appelle TheraPixel, qui a mis au point une solution qui aboutit à des résultats de 20 à 30% meilleurs que ceux d'un cancérologue classique quand il regarde une mammographie pour dépister s'il y a cancer ou pas cancer. Alors, ça, c'est le champ d'IA qui est déjà en train de disrupter, comme on dit mal en français, le marché de la santé, et qui va sans doute être la technique la plus massivement déployée dans les 3 ou 5 prochaines années. Après, vous avez...
Nous, le 2025, voilà.
Alors, après, vous avez une technique qui est celle, une technologie qui est celle que je décris dans le cas de Sarah, qui est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle de pilotage de parcours des patients. Ça, c'est pas simplement une IA qui va reconnaître des images et dire 0, 1, est-ce qu'il y a une pathologie ou pas de pathologie, mais c'est une IA qui va traiter des données plus larges pour déterminer quel est le contexte de prise en charge du patient, quels sont ses antécédents médicaux, quel est l'environnement dans lequel se déploie sa prise en charge pour piloter le processus de prise en charge. Aujourd'hui, vous avez un exemple de ça, qui est la solution développée par DeepMind, qui est une filiale de Google, qui a traité massivement les données de patients pour 8 hôpitaux du système de santé britannique, ce qu'on appelle le NHS, et qui, sur un cas déterminé, la prise en charge d'épisodes d'insuffisance rénale sévère. Et à partir du moment où le patient se présente aux urgences, bah, DeepMind prend la main et administre le parcours du patient et détermine à partir du dossier médical numérique du patient s'il faut un médecin, un infirmier, s'il faut un scan, s'il faut un IRM, et quel est le réseau finalement, vous avez compris, l'arborescence de causale, le faisceau d'options dans lequel on va emmener le patient à partir d'un tableau clinique déterminé. Et cette IA-là, vous avez bien compris qu'elle est plus puissante. Elle a plus vocation à se substituer aux intervenants humains que la simple IA de reconnaissance diagnostique qui est celle qui est en vigueur aujourd'hui. Oui, alors, ma conviction profonde, c'est que l'histoire n'est pas... qu'il y a une possibilité que l'histoire ne soit pas encore écrite. À vrai dire, si on croit le contraire, c'est complètement déprimant. Si on pense que le règne des machines est déjà advenu et que le pire est absolument certain, ça veut dire qu'il faut très très vite faire collectivement autre chose. Et je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. J'ai eu l'honneur de co-diriger le groupe de travail du Comité consultatif national d'éthique français. Vous savez que la France va réviser sa loi de bioéthique en 2019. Et le comité d'éthique a voulu diligenter un groupe de travail dédié sur l'éthique numérique et de l'IA. On fait le constat qu'il ne faut pas se fermer à la technologie, mais qu'il faut d'urgence développer des standards de régulation éthique au niveau européen. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une première base de ça, alors pas spécifiquement sur l'IA, mais sur le numérique, avec ce qu'on appelle le règlement général sur la protection des données. Je ne sais pas si vous le mesurez quand vous allez télécharger des applications, on vous demande « êtes-vous OK pour partager vos données ?» Ben ça, c'est l'effet de ce qu'on appelle le RGPD, qui a été transposé dans les pays de l'Union européenne en 2018. Est-ce que c'est suffisant pour l'IA? Certainement pas. Est-ce que ça protège notre humanité? Pas a priori. Donc c'est pour ça qu'il faut passer un cran complémentaire, celui qu'on pourrait appeler le cran de la régulation éthique positive. On a proposé, et d'ailleurs l'idée est venue de Sarah, et le comité d'éthique a bien voulu nous suivre, l'idée d'un principe général qui est celui de garantie humaine de l'intelligence artificielle, et vous allez un certain degré de supervision de la machine, pas tout le temps, parce que si on cherche à la superviser tout le temps, on bloque l'innovation technologique, mais à des points critiques et en appliquant plutôt une régulation par l'expérience médicale que par la technique informatique elle-même. J'ai envie de dire un peu les deux, capitaine, mais en fait ça renvoie à un débat dans l'IA avec le docteur Alexandre. Celle qui est à chaque étape du processus, et l'IA forte, ce serait celle qui suivrait son cours et maîtriserait complètement le cours des choses. La réalité de 2019 est plutôt une réalité de questionnement. Est-ce que l'IA forte est possible? Sans doute, peut-être. Est-ce qu'on en a la démonstration empirique? Sans doute pas. Quel est le point de régulation? C'est justement ça, la position qui a été prise par le comité consultatif national d'éthique français, et qui est très surprenante de Bruxelles. Quand on a publié le rapport, j'ai eu un appel d'un représentant de la Commission européenne qui m'a dit, je sais que c'est un credo du docteur Alexandre, qui est de dire finalement, mais est-ce que vous êtes bien sûr que c'est la position française parce que vous dites que la surréglementation serait non éthique? Je lui ai dit, oui, c'est la position du comité d'éthique de 2018, parce qu'on est déjà dans un environnement juridique qui est très très protégé, voire surprotégé, qui ne serait pas éthique de bloquer l'innovation. Il faut bien mesurer ça, c'est que à pouvoir se protéger en créant des barrières de droit et des barrières de papier complémentaires, on risque de passer à côté du point de bascule où on ne maîtrisera plus les choses. Et il faut entrer dans la garantie humaine pratique, développer des référentiels concrets. Je prends un exemple très précis avec les équipes de l'Institut Hospitalo-Universitaire Imagine, qui est en fait un institut de référence sur la génétique, qui pilote des bases de données génomiques. On a construit avec l'équipe d'Étiquier un référentiel de bon usage de l'IA appliqué aux données génomiques. Référentiel de bonne pratique, pas du droit pur. Mais en partant de la notion pratique, qu'il faut mieux partager, davantage partager nos données de santé dans un environnement plus protégé comme le Health Data Hub, ce qui est actuellement en France, il en faudrait un niveau européen. Donc, beaucoup plus ouvrir les données de santé, parce que sinon, l'innovation va se concevoir ailleurs, aux États-Unis, en Chine, et on a déjà l'expérience de ça, que les professionnels et les patients français et belges se tourneront vers des solutions conçues ailleurs dont on ne pourra pas maîtriser a priori le caractère éthique. Il faut s'ouvrir à l'innovation et être plus dans ce qu'on pourrait appeler le soft law, les recommandations de bonne pratique, que créer du droit dur. On en a déjà beaucoup dans le contexte européen.
Il n'a que sérieux entrepreneur.